Chapitre 4. Une heureuse évasion. Une triste séparation. Mistress Barnabé s'installe à Cheltenham. Sa première sortie. Le déjeuner à table d'hôte. Une nouvelle connaissance. Une conversation médicale. Comme pour augmenter encore la jolie dose de confiance que Mistress Barnaby avait déjà en elle-même et en son savoir-faire, la fortune lui fournit bientôt de nouvelles raisons de croire qu'elle la favorisait tout particulièrement. Juste au moment où elle commençait à trouver Clifton si intolérablement assommant que l'appât même de rentrer dans son bien ne compensait pas l'ennui de poursuivre ceux qui le lui avaient volé, elle reçut l'heureuse nouvelle que le trio s'était échappé grâce à la supériorité de l'initiative du capitaine Maintry, autrement Joe Perham. Préférant mille fois le but qu'elle voulait atteindre en tentant de nouvelles aventures à Cheltenham à celui que se proposait la justice, elle se mit, sans perdre une minute, à faire ses préparatifs de départ. Mistress Barnabé, n'ayant pas su résister aux instances d'une foule de fournisseurs qui avaient réclamé l'honneur de mettre son nom sur le registre, il en résulta que lorsqu'elle annonça son intention de partir, une pluie de factures, à propos de simples rien, tomba chez elle. Si bien qu'elle se fût trouvée assez embarrassée si la manière de se procurer de l'argent qu'elle avait pratiquée pendant les dernières années de son père n'eût encore été très présente à sa mémoire. Elle était entièrement maîtresse de sa fortune qui était placée sur les fonds de l'État. Rien n'était donc plus facile que de donner ordre à son agent de change de vendre une couple de centaines de livres sterling. La confiance en soi, le sentiment de posséder en nous-mêmes une puissance assez forte pour nous faire atteindre le but que nous avons en vue, constitue généralement un état mental aussi agréable qu'utile. Mais chez Mistress Barnabé, ce sentiment avait encore une autre conséquence. Jamais dans tous ses plans, elle ne prévoyait la possibilité de l'insuccès avec ses suites. Aussi n'employait-elle jamais son habileté à se mettre en garde contre ces mêmes suites. Enfin, ses factures, qui, pour le dire en passant, étaient toutes pour sa toilette, furent payées sans délai et elle fixa le jour où elle prendrait avec Agnès la voiture publique qui fait le service de Bristol à Cheltenham. La pauvre Agnès pleura amèrement en recevant les adieux affectueux de ses amis de Rodney Place. Marie aussi pleura. Elle l'aimait réellement, quoique le cruel désappointement qu'Agnès lui avait infligé eût peut-être un peu atténué l'affection enthousiaste dont elle s'était enflammée pour elle. Mais pouvait-on comparer le chagrin qu'éprouvait Miss Peters à la pensée de ne plus revoir Agnès, à celui que ressentait la pauvre enfant? Elle avait si peu souffert de la tyrannie de Mistress Barnabé pendant le mois qu'elle venait de passer à Clifton. Elle oubliait si vite tous ses tracas lorsqu'elle se trouvait en compagnie de Marie, jouissant de l'affectueuse hospitalité de Romney Place. Oh, le cruel changement! Tous ces ennuis que l'heureuse légèreté de son jeune esprit chassait, comme le brillant soleil d'avril chasse les nuages pleins de ténèbres, revenait violemment s'amonceler sur sa tête, comme un orage dont on ne saurait prévoir la fin. « Vous m'écrirez, ma chère Agnès, dit Marie. Je penserai à vous bien souvent. » Et ce sera un réel plaisir que d'avoir de vos nouvelles. Et pour moi, Marie, vous écrire sera certainement le plus grand plaisir que je puisse avoir. Mais comment vous demander de me répondre? Ma tante ne me permettra pas de recevoir une lettre, j'en suis sûre. Et pourtant, ne vaudrait-elle pas pour moi son pesant d'or? Ne mêlons pas l'or à votre chagrin, Agnès, reprit Marie en riant. Je ne saurais croire en vérité que votre dragon soit si féroce. J'ai peine à m'imaginer qu'elle vous défende de correspondre avec moi. » Agnès fit un effort pour lui rendre son sourire, rougit et dit en hésitant « Je veux dire, Marie, qu'elle ne voudra pas payer le port de mes lettres. »« Pas possible !» s'écria Miss Peters indignée. « Vous ne parlez pas sérieusement ?»« Je sais !» Bien que ma mère ne croie pas un mot de tout ce qu'elle dit sur son immense fortune, ni de toutes les généreuses intentions qu'elle manifeste à notre égard, mais maman dit que mon oncle a dû lui laisser un revenu très respectable. Aussi, personne de nous, pas même Élisabeth, ne met en doute qu'elle ne se remarie le plus vite possible. Et lorsqu'elle aura trouvé un mari, il est bien entendu qu'elle le dotera de tout ce qu'elle possède en ce monde. Mais encore, jusque-là, il n'est pas croyable qu'elle vous refuse de payer le port de vos lettres. Peut-être ne s'y refusera-t-elle pas, dit Agnès rougissant encore, car elle sentait qu'elle ne pensait pas ce qu'elle disait. Mais à tout hasard, ma bien chère Marie, faites-en l'expérience. Savoir que vous avez pensé à moi me fera un bien inexprimable. Et, en supposant que M. Frédéric Stephenson revienne à Clifton, Agnès, en supposant qu'il lui arrive de me demander de quel côté vous êtes allée, puis-je le lui dire ?
Il ne vous le demandera pas, Marie.
Mais enfin, s'il le demandait, dit Miss Peters en persistant. Eh bien alors, vous lui direz qu'il serait vraiment bien aimable de ne jamais plus parler de moi à personne. Arrivée à Cheltenham, Mrs. Barnaby s'occupa de la grosse affaire de trouver un domicile avec beaucoup plus de confiance en son jugement qu'auparavant. Après avoir pris quelques informations sur les endroits possibles, elle se décida à se placer dans une pension et, quoique le prix l'eût un peu saisi, non seulement elle choisit la maison la plus chère, mais elle s'accorda le luxe dispendieux d'un beau salon pour elle seule. « Je sais ce que je fais, » pensait-elle. « Comme un cœur pusillanime ne gagnera jamais les bonnes grâces d'une jolie femme, une main avare ne gagnera jamais le cœur d'un gentleman élégant. » C'était ainsi que, cédant toujours à ce même principe, elle avait, 3 jours après son arrivée, trouvé un tigre, l'avait habillé, le couvrant de boutons resplendissant des pieds à la tête, et l'avait envoyé à ses appartements particuliers. C'était aussi ce qu'il avait vraisemblablement déterminé à placer son nom sur le registre des souscriptions pour la salle de bal. Aux yeux de Mrs. Barnaby, son existence à Cheltenham ne compta que du lendemain du jour où tous ses arrangements furent terminés. Elle s'était informée des heures convenables où l'on pouvait se promener, du genre de toilette que comportaient les différents moments de la journée et des divers points de réunion où il fallait paraître. Elle dit donc à Agnès, le lendemain matin, de brosser soigneusement son éternel chapeau de crêpe noir et, abritant ses traits sous un chapeau de paille de fantaisie, garni de dentelles de Bruxelles et de rubans paille, Mrs. Barnaby sortit de chez elle à 8 heures du matin pour aller à la source boire son premier verre, appuyée sur le bras de sa nièce et suivie de son tigre qui portait son ombrelle. Tout son entrain lui revint lorsque, en approchant de la fontaine, elle aperçut, riante et cancanant d'un air fort gai, la foule des malades que le bon ton, aussi bien que la bile, avait amené là. Et quand elle tendit la main pour recevoir le verre d'eau, elle avait plutôt l'air d'une bacchante un peu mûre qui célèbre les rites de Bacchus que d'un fidèle venant sacrifier sur l'autel de l'hygiène. Mais la nauséabonde liqueur n'eut pas plutôt touché ses lèvres, ou pour mieux dire son palais, que, faisant une horrible grimace, elle posa le verre sur la tablette de marbre en le repoussant loin d'elle avec des signes de dégoût fort visibles. Un instant de réflexion lui fit retourner la tête pour voir si Agnès la regardait. Mais non, Agnès n'était certes pas loin. Seulement, toute son attention semblait être captivée par une grande et élégante jeune femme qui s'avançait, soutenant une vieille dame appuyée à son bras. Toutes deux semblaient tout occupées, comme Agnès, à contempler la foule des buveurs d'eau. Satisfaite que son violent dégoût pour le détestable breuvage n'eût pas été aperçu, Mrs. Barnaby sortit de la foule et dit, tout en reprenant le bras de sa nièce,
« Cette eau doit être un excellent remède pour ceux qui en ont besoin, mais je ne crois pas que je me hasarde à en reprendre encore avant d'avoir eu un conseil médical. Il doit y avoir vraiment une grande puissance dans ce remède et je pense que cela vous ferait énormément de bien, Agnès. »
Comme Mrs. Barnaby avait articulé ces mots sur le ton glapissant qu'elle prenait toujours en public,
dans la crainte de ne pas être aperçu des gens qui étaient à une petite distance d'elle, il arriva qu'ils furent très distinctement entendus par les dames dont nous avons parlé plus haut. La plus âgée des deux, qui avait été témoin de l'air de dégoût avec lequel Mistress Barnabé avait reposé sur la tablette son verre encore plein, riait sous cape, quoique très gaiement, disant, plutôt à elle-même qu'à sa compagne, « Bon, parfait, en vérité, ceci nous promet une nouvelle acquisition. » Faisant alors un tour ou deux d'un bout à l'autre de la noble promenade sur laquelle s'ouvrait le casino, la veuve eut le ravissement de voir que, même à cette heure matinale, on pouvait rencontrer là, flânant, plusieurs hommes à tournure superbe, couverts de galons, portant moustaches et favoris, enfin tout ce qui la flattait le plus. Sa montre lui disant que l'heure du déjeuner de sa pension était arrivée, elle revint de sa séduisante promenade, mieux disposée que jamais, et après avoir passé quelques minutes devant son miroir à rafraîchir son teint et à arranger son bonnet et ses boucles, elle fit son entrée dans la salle à manger, où tout le monde se réunissait, toute prête à jouir, autant que possible, de tout ce qu'elle y trouverait. Maintenant qu'elle avait laissé derrière elle la famille Peters, elle ne trouvait plus nécessaire de contenir sa fantaisie quant au choix des couleurs de sa toilette, et, excepté sur un théâtre de province, il eût été difficile de trouver un costume plus éclatant dans toutes ses nuances que celui de notre veuve, lorsque, suivant l'obséquieux garçon de salle, elle se dirigeait vers la place qui lui était assignée. Agnès venait derrière elle. L'œil ébloui, qui avait été attiré par Mistress Barnabé, s'arrêtait sur Agnès comme pour s'y reposer. Et quand elles furent assises toutes les deux, ce fut sur cette belle tête aux traits délicats et sur ses vêtements de deuil que tous les yeux se fixèrent. Le crêpe et la lépine qu'Agnès portait pour se prêter aux arrangements de sa trop sensible tante lui rendaient du moins le service d'exclure toute idée de parenté entre elle et sa compagne. Et, quoique personne ne pût les voir ensemble sans s'étonner de la discordante intimité qui existait entre deux femmes aussi remarquablement dissemblables, nul ne se l'expliquait en les prenant pour une tante et sa nièce. La société qui se réunissait à la table du déjeuner se composait de 14 messieurs et de 5 dames. Le reste des voyageurs qui habitaient le grand bâtiment, adoptés d'ailleurs par les gens vraiment élégants, préférant déjeuner dans leurs appartements, quoiqu'il y en eût peu qui ne condescendissent à abandonner leur solitude pour venir dîner à la table commune. Sur les messieurs qui étaient présents, il y en avait au moins la moitié, dont le teint couleur citron laissait comprendre à première vue quel était le motif réel de leur présence. Quant à l'autre moitié, il n'était pas si facile de se l'expliquer. Les 5 dames étaient bien mises. Il y en avait 2 vieilles et 3 jeunes. Pour la plupart, on pouvait dire qu'elles paraissaient fort comme il faut. Une description détaillée de chacune d'elles ne ferait qu'encombrer et retarder le récit sans nécessité, d'autant que celles qui se mettront en contact particulier avec notre héroïne ou avec sa nièce auront nécessairement leur part. Nos 2 dames furent bien entendu placées à côté l'une de l'autre. À sa droite, Mistress Barnabé était flanquée d'un monsieur grave et sérieux, d'un âge moyen, qui produisait heureusement sur l'étincelante vivacité de la veuve un effet absolument semblable à celui d'une couverture mouillée sur des pétards. Après avoir fait sur lui 1 ou 2 tentatives de conversation qui avortèrent, et de plus toutes les agaceries que permet à une table d'hôte la participation au café et aux œufs, elle se vit forcée de manger son déjeuner en silence ou de reporter ses dispositions sociables sur la personne qui se trouvait à la gauche d'Agnès. Cette personne était une femme qui n'était plus de la première jeunesse. Elle venait d'arriver à Cheltenham pour la saison, ainsi que Mistress Barnabé. Mais, contrairement à notre veuve, cette personne, qui était une vieille fille à l'esprit vif, possédant une jolie aisance dont elle était maîtresse absolue, visitait fidèlement Cheltenham chaque été depuis 12 années. Elle pouvait, par conséquent, donner sur l'endroit les informations de toute nature que désirait Mistress Barnabé. Miss Morrison, elle s'appelait ainsi, étant actuellement, comme elle l'avait été toute sa vie, une femme très prudente, qui avait toujours suivi la voie la plus irréprochable, aurait très probablement pris peur dès sa première rencontre avec la veuve, si le hasard avait voulu qu'elle la vît se lancer à pleine voile sur la mer des conquêtes. Mais dans leur première entrevue, l'air et les manières d'Agnès, offrant une sorte de garantie de l'honorabilité de la dame à laquelle elle était confiée, elle reçut avec beaucoup de politesse les avances que lui fit Mistress Barnabé. Avant qu'elles n'eussent échangé beaucoup de phrases, la vieille fille eut la satisfaction de voir que la connaissance approfondie qu'elle possédait de Cheltenham et de ses mœurs lui donnait une supériorité incommensurable sur sa nouvelle amie, si richement mise. Et pendant ce temps, Mistress Barnabé découvrait avec la même facilité que par cette personne à l'air si respectable, elle pourrait apprendre tout ce qu'elle désirait savoir. Le résultat de cette dernière découverte fut un si vif échange de questions et de réponses qu'Agnès se vit obligée de se rejeter en arrière, ce qui la forçait à manger son déjeuner à une très grande distance de la table. Mais elle était si reconnaissante à la Providence de ce que sa tante, au lieu d'un major Allen au gros favori, avait rencontré une femme de 40 ans, paraissant fort tranquille, que d'elle-même, elle s'était placée dans l'attitude la plus favorable à la conversation de ces dames.
« Jamais venue encore à Cheltenham ? Réellement ? Eh bien, madame, je ne doute pas un instant que vous ne déclariez bientôt que ce ne sera pas votre dernière visite, si c'est votre première, » dit Miss Morrison.
« Vraiment, madame, je crois que vous pourriez bien avoir raison, » répliqua Mistress Barnabé, « car je n'ai jamais vu un endroit qui me plaise autant. Nous arrivons de Clifton, que l'on dit si beau, mais ce n'est pas comparable à Cheltenham. »
« Vous venez de Clifton, vous dites, madame ?»«
Je sais que c'est un très bel endroit, mais terriblement triste, je crois, en comparaison de celui-ci. Quelqu'un qui connaît bien Cheltenham et qui sait se servir de tout ce qui s'y trouve peut y passer des mois et des mois sans avoir connu ce que c'est qu'une heure d'ennui. Je ne crois pas que, pour vous faire passer le temps agréablement, il existe une place semblable à celle-ci dans le monde entier. »
« C'est une bien grande bénédiction, » reprit ardemment Mistress Barnabé. « Si je redoute et si je hais quelque chose au monde, c'est de n'avoir rien à faire de mon temps. La paresse est vraiment la source de tous les maux. »
« Je suis heureuse de vous entendre parler ainsi, » dit Mademoiselle Morrison. « D'abord parce que c'est mon opinion, et aussi parce que, d'après cela, vous vous trouverez parfaitement bien ici, et je serai très heureuse, je vous assure, si je puis vous guider de quelques-uns de mes conseils. »
Vous êtes, on ne peut plus, aimable et obligeante, madame, répondit très gracieusement Mistress Barnabé, et je vous serai fort reconnaissante de tout ce que vous voudrez bien me donner en fait de conseils. Je regarderai comme un crime de ma part, avec ma belle fortune, de ne pas mettre mon temps à profit dans un endroit comme Cheltenham. »
Cette phrase produisit l'effet voulu. Miss Morrison regarda son interlocutrice non seulement avec un respect encore plus grand, mais avec une bonne volonté doublée.
« Vous avez bien raison, vraiment, ma chère madame, » dit-elle. « Je me fais forte de vous assurer que vous ne porterez pas sur vos épaules le poids d'une seule heure d'ennui pendant le temps que vous passerez ici. Il y a tant à faire avec les bals et la musique que l'on fait au salon de lecture et les heures de promenade qui reviennent régulièrement, et toutes les ventes, si l'on veut y assister, nous en avons quelquefois 3 dans le même jour, et les magasins à visiter, et si vous avez votre voiture, les promenades autour de la ville, les visites du matin, les réunions du soir, les églises, les chapelles, puis chercher des nouveaux noms sur le registre, aller à la salle de bal faire de nouvelles connaissances ou en retrouver d'anciennes, il n'y a pas un jour dans la semaine, ni une heure dans le jour, qui ne puissent être agréablement employés.
Je vous assure, madame, que c'est un grand plaisir pour une personne douée comme moi d'un esprit actif d'entendre une pareille description. Et c'est un plaisir bien plus grand encore de rencontrer une personne comme vous, ayant assez de goût et de bon sens pour apprécier ce qui est appréciable. J'espère que nous ferons plus ample connaissance. J'ai ici un salon à moi où je serai ravie de vous voir. permettez-moi de vous donner ma carte. » Une carte dorée sur tranche et tout ornée en relief, sur laquelle était inscrit « Mistress Barnabé, hôtel numéro 5 » fut déposée entre les mains de Miss Morrison, qui la reçut d'un air fort satisfait en réitérant l'assurance qu'elle ne manquerait pas d'aller présenter ses compliments à Mistress Barnabé. Contrairement à beaucoup de personnes vaniteuses qui sont persuadées qu'elles doivent à leurs beaux yeux toutes les politesses qu'on leur fait, Miss Morrison avait assez de bon sens ainsi que d'expérience pour comprendre qu'elle devrait, d'une façon ou de l'autre, par quelque complaisance, payer chacun des avantages que pourrait lui procurer soit Mistress Barnabé, soit le salon de Mistress Barnabé. Pour une foule d'excellentes raisons, Miss Morrison ne payait jamais ces sortes d'obligations d'une autre monnaie que celle qui, aidée de son esprit et de sa sagesse, sortait de ses lèvres. Elle ne tirait jamais à cet effet aucun bon sur le trésor public. Ayant donc posé, à côté de la tartine beurrée de Mistress Barnabé, son modeste petit morceau de carton, sur lequel était écrit à la main, en gros et lisible caractère, « Miss Morrison, hôtel !» Elle commença tout de suite, comme une honnête vieille fille qu'elle était, à payer sa dette, avant presque de l'avoir contractée. « Je ne sais pas comment se passent ces sortes de choses à Clifton, Mistress Barnabé, » dit-elle. Mais ici, tous les médecins, ou au moins plusieurs d'entre eux, viennent toujours rendre visite aux nouveaux arrivants. Et quoique j'espère de tout mon cœur que ni vous, ni cette jolie demoiselle, qui est avec vous, je suppose, n'aurez l'occasion de prendre des remèdes ou de voir des docteurs, cependant, je vous conseille très positivement de faire un choix par avance et de le faire savoir à celui que vous aurez choisi. Il n'y a pas en ce monde de connaissance plus agréable que celle des hommes qui ont embrassé la profession médicale, tout au moins ici il en est ainsi. Nous avons bien un ou deux pharmaciens chirurgiens, comme on les appelle, qui sont certainement fort élégants, tout aussi capables de conversation que ceux que vous pouvez rencontrer à Londres ou n'importe où, en exceptant toutefois Paris. J'ai trouvé là des pharmaciens, comme toute autre chose au reste, possédant certainement des manières d'un genre, d'une élégance, au-dessus de l'ordinaire. Tout à fait parfait, comme on dit de l'autre côté de la Manche. Vous avez bien sûr visité le continent, Mistress Barnabé. Non, Mistress Morrison, non, je n'y suis jamais allée, répondit la veuve, faisant tête à l'attaque avec beaucoup d'adresse et de courage. Je suis obligée de vous avouer que l'extrême bien-être, l'extrême élégance de mon intérieur, avait fait de moi littéralement une prisonnière jusqu'ici, mais depuis la perte de mon cher mari, j'ai senti que le changement de place était devenu absolument nécessaire, aussi bien à ma santé qu'à mon humeur, et il est très probable que je ferai bientôt le tour de l'Europe. Vraiment ? Oh Dieu, que je vous envie ! Mais vous parlez déjà toutes les langues ? Oh, parfaitement. Ah, que je suis contente de savoir cela, Mistress Barnabé, car sur ma parole, depuis que j'ai été sur le continent, il m'est absolument impossible d'éviter de me servir à chaque instant de mots français, et c'est si vexant de ne pas être comprise. Il va sans dire qu'une personne de votre condition a eu des leçons de toutes sortes d'étrangers. Autrement, ceux qui ne peuvent pas s'accorder ce luxe n'attrapent jamais l'accent s'ils ne vont pas dans le pays. Je suis certaine qu'avant d'avoir passé une semaine sur le continent, vous trouverez une prodigieuse différence dans votre accent qui, je n'en doute pas, est déjà excellent. Mais à propos des pharmaciens et des chirurgiens dont je vous parlais tout à l'heure, j'espère que vous allez donner des ordres pour que, si M. Alexandre Pringle venait et qu'il vous envoyât sa carte, on lui dise que vous le priez de monter. Et alors, vous savez, précisément à propos de Nang, vous pouvez le faire causer sur tout ce que vous voulez savoir. Et vous pourrez même lui dire, si cela vous convient, que c'est Miss Morrison qui l'a particulièrement recommandé à vous. Il n'est pas nécessaire du tout que vous lui donniez des honoraires, mais vous pourrez lui faire, comme ça, quelques questions sur les eaux. Vous trouverez en lui la connaissance la plus agréable, la plus comme il faut, la plus instructive, d'au monde. Le déjeuner tirait si évidemment à sa fin que les nouvelles amies jugèrent opportun de quitter la table. Mrs. Barnabé ayant répété son invitation et Mlle Morrison y ayant répondu en lui baisant le bout des doigts, tout en murmurant « Merci, merci, au revoir !» Elles se séparèrent, la veuve pour donner l'ordre, en retournant à son salon, de laisser entrer M. Alexandre Pringle s'il demandait à la voir, et la vieille fille pour aller inventer, dans la retraite silencieuse de sa mansarde, la difficile confection d'un vêtement dont elle avait étudié la coupe et la tournure pendant les 3 semaines de sa résidence à Paris, et qui devait, aux yeux de la majorité de ses amis et connaissances, passer pour être de fabrication française. Il ne s'écoula pas beaucoup de temps avant que la prédiction de Miss Morrison ne se réalisât. M. Alexandre Pringle vint à l'hôtel déposer sa carte pour Mrs. Barnabé et, grâce aux ordres qui avaient été donnés, il fut immédiatement introduit auprès de cette dame. Elle était seule, car Agnès, pour laquelle, malheureusement, il n'y avait pas le moindre pauvre petit cabinet, avait reçu le congé, toujours bien accueilli, qu'on lui donnait maintenant en ces termes. « Là, vous pouvez aller étudier vos leçons, mon enfant !» Et elle s'était retirée dans le coin le plus renfoncé de la chambre à deux lits qui leur servait de chambre à coucher, où déjà son pupitre et d'autres trésors venant d'Hampton avaient fait de 4 pieds carrés sa nouvelle installation dans la maison. Donc le sofa, plus la table ornée de son tapis criard, sur laquelle Mrs. Barnabé avait placé, aux endroits les mieux choisis et dans les poses les plus favorables, sa boîte à ouvrage, un encrier en porcelaine de Chine aux couleurs éclatantes qui appartenait à l'hôtel, et l'album, toujours consacré par le nom d'Isabella d'Almalfonte, formaient avec sa magnifique personne un ensemble qui eût fait un charmant tableau quand le médecin entra dans la chambre. Il est assez probable que M. Alexandre Pringle s'attendait plutôt à être introduit auprès d'une malade qu'auprès d'une dame ayant l'apparence de jouir d'un état de santé aussi parfait. « Prenez un siège, monsieur, je vous prie. Monsieur Pringle, je crois. » dit Mrs. Barnabé, se levant à demi de dessus le sofa et désignant une chaise placée juste en face d'elle. M. Pringle prit la chaise indiquée. Mais, avant de s'y asseoir pour tout de bon, l'idée lui vint que quelque erreur pouvait bien être la source des politesses qu'on lui faisait. Il se releva, fit un pas en avant et posa sur la table, immédiatement sous les yeux de la dame, sa carte de visite qui portait son nom, sa profession et son adresse. « Oh oui, dit-elle, avec un sourire d'une aimable condescendance. Je comprends parfaitement. » Et si jamais, soit moi-même, soit ma jeune nièce, soit l'un de mes domestiques avait besoin de soins médicaux, monsieur Pringle, cette carte, et elle la plaçait soigneusement dans sa boîte à ouvrage, nous indiquerait à qui nous devrions nous adresser. Mais, quoique pour le moment nous soyons tous assez bien, je suis vraiment très heureuse d'avoir l'occasion de vous voir, monsieur. Miss Morrison, je crois que vous connaissez Miss Morrison. » Monsieur Pringle salua. « Miss Morrison m'a parlé de vous dans des termes qui m'ont donné le plus grand désir de vous connaître. Les hommes de votre profession, monsieur Pringle, ont une si parfaite connaissance du monde que, pour une personne étrangère, c'est un grand avantage, tout d'abord, en arrivant dans un endroit nouveau, de trouver l'occasion de lier conversation avec eux. Voulez-vous m'accorder 5 minutes pendant lesquelles je vous expliquerai les particularités de ma situation ?» « Assurément, madame, répondit M. Pringle, et je serai très heureux de vous entendre. » « Eh bien donc, sans faire plus d'excuses, je vais vous parler de moi. Je m'appelle Barnabé. Je suis veuve, riche et sans enfant, car j'ai perdu mes 2 pauvres petits. » Et ici, Mrs. Barnabé tira un de ses mouchoirs brodés, comme elle le faisait toujours quand elle parlait des enfants qu'elle n'avait jamais eus, ce qui lui arrivait fréquemment. Elle ne pouvait souffrir l'idée de passer pour une femme qui aurait été privée de la bénédiction d'être mère. Détail qui revenait toujours, accompagné de bien d'autres, chaque fois qu'elle se lançait dans ses efforts d'imagination, détail qui était devenu pour Agnès un bienfait, par cela seul qu'il rendait son absence d'autant plus désirable. Quand Mrs. Barnaby eut essuyé ses yeux et surmonté son émotion, elle continua.
« Je n'ai pas d'enfant, mais j'ai eu une sœur aînée, que j'ai perdue il y a quelques années. Il y avait une telle distance entre elle et moi qu'on aurait pu la prendre aisément pour ma mère. Elle a laissé à mes soins une orpheline. À la vérité, ma nièce est de bien peu plus jeune que moi. » Et l'inquiétude que me donne cette charge dépasse souvent mes forces. La petite est gentille, je lui suis très passionnément attachée. Toutefois, elle a dans le caractère quelques singularités qui me tourmentent. Ainsi, l'une de ses lubies consiste à ne pas vouloir porter autre chose que le deuil le plus profond, se consacrant elle-même, pour ainsi dire, à la mémoire des parents qu'elle a perdus. Ce caprice, monsieur Pringle, vous dit assez dans quel état d'esprit elle est et combien elle a besoin de changer de lieu. C'est pourquoi j'ai quitté ma charmante habitation du Devonshire dans l'espoir que la distraction et un cercle plus gai que celui qu'on peut généralement trouver dans le voisinage immédiat d'une grande propriété à la campagne pourrait lui être d'une certaine utilité. En vérité, madame, je crois que vous avez eu parfaitement raison. Répondit M. Pringle. Quel âge a la jeune personne ?
Juste 17 ans, et je n'aurais aucun scrupule à la mener dans quelque soirée. C'est sur ce point, monsieur, que j'aimerais avoir votre avis. Quand je suis venu à Cheltenham, je comptais positivement y trouver mes amis, les Gordon, des parents très proches du duc, et des personnes de conséquence qui tiennent le premier rang dans le monde à la mode. Mais je vois, par une lettre qu'ils m'ont envoyée à Clifton, croyant que j'y étais encore, qu'ils sont absolument obligés d'aller faire un séjour de quelques semaines chez la duchesse de Bedford. Je me trouve donc ici absolument étrangère et dépourvue de tout moyen de pénétrer dans la société.
Un contretemps bien contrariant, certainement, madame. Mais il n'y a aucun doute que vous ne trouviez ici toute la société désirable. Cheltenham est absolument plein en ce moment, et une dame de votre rang ne peut guère manquer d'y rencontrer quelques personnes de connaissance. D'ailleurs, vous irez au casino, Mrs. Barnaby, vous regarderez le registre des souscriptions, et je suis certain que vous y rencontrerez quelques noms qui ne vous seront pas inconnus. Au reste, je puis moi-même, si vous le désirez, faire entendre que vous seriez bien aise d'entrer dans la société, et que probablement aussi vous avez l'intention de recevoir.
« Vraiment, monsieur, vous m'obligerez beaucoup. Pour mon propre compte, je n'aurais jamais eu la pensée de faire connaissance avec des étrangers, mais pour cette chère fille, il n'est rien que je ne sois disposé à faire. Bien entendu que je me fais un cas de conscience de m'abonner à tout, et en particulier de mener ma pauvre chère nièce à tous les bals. Elle est vraiment très jolie, et si je puis parvenir à lui trouver des danseurs convenables, je crois que la danse lui fera le plus grand bien. » Y a-t-il quelques personnes de la noblesse ici en ce moment, monsieur Pringle ?
Oui, madame, plusieurs, et beaucoup de gens de la bonne société en plus.
Ceci nous offre une meilleure chance de trouver quelques anciennes connaissances. Mais il y a encore un autre point, monsieur Pringle, sur lequel j'ai hâte de vous consulter. Ma nièce est décidément fort bilieuse, et je suis convaincue qu'un verre de vos eaux tous les matins serait des plus essentiels pour elle. Malheureusement, la chère créature est tellement gâtée que je ne crois pas qu'on puisse la décider à prendre une chose qui n'est certainement guère agréable au goût, à moins que cela ne lui soit ordonné par un médecin.
Avant de me hasarder à faire une prescription à la jeune personne, répliqua M. Pringle, il faut que je la voie. Au-dedans d'elle-même, Mrs. Barnaby eût souhaité qu'il fût moins scrupuleux. Mais sentant qu'il valait mieux recevoir une note d'une visite que de perdre une occasion quotidienne d'entrer dans la délicieuse salle de bal, et sentant plus vivement encore que, pour faire avaler la dose à Agnès au lieu de l'avaler elle-même, elle paierait bien une demi-douzaine de visites, elle se leva du sofa et dit avec un sourire plein de séduction
« Je vais vous l'amener moi-même, monsieur !» Mais j'espère que vous ne m'imposerez pas le désappointement de ne pas lui ordonner les os. Je connais sa constitution et je m'engage à vous affirmer qu'elle est un superbe sujet pour le traitement de Cheltenham. Elle est si bilieuse, la pauvre fille, si horriblement bilieuse. Mrs Barnabé quitta la chambre et alla tout de suite trouver Agnès, qui ne fut pas médiocrement surprise quand elle lui dit qu'une visite du médecin lui était nécessaire. Car, à part une grande tristesse de cœur, elle se sentait tout à fait bien, et parce que, depuis son arrivée d'Hampton, elle ne s'était jamais encore aperçue que sa tante s'inquiéta de savoir si elle se portait bien ou mal. Elle céda toutefois avec une obéissance aveugle à l'ordre qu'on lui donnait. Elle laissa la lettre qu'elle écrivait à Mlle Peters et suivit docilement au salon son impérieuse protectrice. M. Alexandre Pringle était réellement fort habile et tous les hommes habiles de sa profession discernent en général, avec beaucoup d'adresse, le diagnostic de toute maladie. Il s'attendait à voir une jeune fille à l'œil jaune, à l'œil lourd, ayant l'air mélancolique d'une personne dont les larmes sont toutes prêtes à couler ou qui boude avec malice. Au lieu de cela, il avait devant lui une créature ravissante, gracieuse, qui marchait de ce pas élastique, résultat de la jeunesse et de la santé, et dont les yeux limpides et intelligents disaient aussi nettement que des yeux peuvent le dire « Que me voulez-vous? Je n'ai nullement besoin de vous !» Du premier coup d'œil, il s'aperçut que l'aimable veuve sans enfant s'était absolument trompée sur le cas de la jeune fille. Cela pouvait bien venir d'une trop tendre affection. Mais qu'il en fût ainsi ou autrement, quand il prit le poignet délicat d'Agnès pour tâter le tic-tac plein de santé de son pouls, il ne s'agissait plus pour lui d'éclaircir un doute médical. Toutefois, M. Pringle, père de 7 enfants, tous donnant les plus belles espérances, n'eut pas la sottise de rejeter la clientèle d'une riche veuve qui n'était pas mère, et regardant avec beaucoup de gravité sa belle malade, il dit « Il y a là, madame, peu de choses, ou même rien, qui puisse vous alarmer. La jeune personne est un peu pâle, mais j'inclinerais à croire que cela vient plutôt de la nuance délicate de son teint que de la maladie. Il sera bon pourtant que je la revoie. Jusque-là, je lui conseille fortement de prendre un tiers de verre de notre eau tous les jours. Vous pourriez augmenter la dose si vous le jugiez nécessaire. Mais je crois pouvoir espérer que ceci sera suffisant avec l'aide de quelques cuillerées à bouche d'une mixture nullement désagréable, ma chère demoiselle, que je ne manquerai pas de vous envoyer. » Et là-dessus, M. Pringle se levait pour prendre congé, quand Agnès ne laissa pas de lui causer un léger embarras, en lui répondant avec un demi-sourire qui semblait assez enclin au persiflage. « Vous m'excuserez, monsieur, si je me refuse à prendre aucune médecine jusqu'à ce que je me sente malade. » M. Pringle, qui lui-même se sentait tout près d'avoir envie de rire, répondit du ton le plus enjoué « Eh bien alors, Mrs Barnaby, je crois qu'il faudra que nous y renoncions, et je ne pense pas qu'il y ait grand danger à cela. » Il partit donc, laissant Mrs Barnaby parfaitement décidée à faire boire les eaux à Agnès, mais assez contente au fond de n'avoir pas la mixture à payer, tandis qu'Agnès se creusait l'esprit pour deviner ce que pouvait signifier cette nouvelle fantaisie de sa tante. « Qu'est-ce qui vous a fait croire que j'étais malade, ma tante ? » dit-elle. « Malade ? Qui vous a dit, mon enfant, que je vous crois malade ? Je n'ai jamais songé à rien de pareil. Mais il ne me convenait pas de vous voir boire de ces eaux sans avoir pris l'avis du premier médecin de l'endroit. Il n'y a nulle dépense, nul sacrifice, Agnès, vous le savez, que je ne sois prête à faire pour vous. Mais je n'ai nullement l'intention de boire des eaux, ma tante. Je vous remercie. » Vous n'avez nullement l'intention, mademoiselle, vraiment. Et peut-être n'avez-vous pas l'intention de manger à dîner aujourd'hui? Et peut-être n'avez-vous pas l'intention de coucher dans ma chambre ce soir? Et peut-être avez-vous l'intention de vous promener dans la rue toute la nuit? Joli langage, en vérité, de vous à moi. Allez, vous pouvez retourner où vous étiez, et puisque vous aimez tant être collé à vos livres, allez vous en faire un devoir. Moi, je ferai ce que bon me semblera. » Agnès quitta la chambre sans rien dire, et Mrs Barnaby se prépara à recevoir sa nouvelle amie, Miss Morrison, qui, elle y comptait bien, allait venir la voir avant l'heure, indiquée par elle, où le monde élégant se rendait au salon de lecture publique. Elle n'était pas autrement fâchée de la brusque sortie d'Agnès, la présence de la jeune fille lui étant extrêmement incommode lorsqu'elle se sentait quelque peu portée à faire sa propre biographie. En attendant cet agréable passe-temps, elle s'était mise à broder son superbe col, méditant sur le piège où elle s'était laissée prendre à l'endroit de Silverton Park. Elle était fermement résolue à n'en pas souffler mot à Miss Morrison, voire même comme d'un parc aux chevaux, tout en ne s'interdisant pas, d'ailleurs, de laisser à son imagination la liberté de quelques autres écarts. Jusqu'à présent, je puis me flatter que ce jour n'aura pas été perdu pour moi, pensait-elle tout en travaillant à son élégante broderie. On m'a terriblement regardée au casino, et pourtant je n'avais que mon chapeau fermé. J'ai fait une nouvelle connaissance fameuse et, se rappelant avec un sourire de contentement intérieur tout ce qu'elle avait dit à M. Pringle, je sais que je n'ai pas semé sur un terrain stérile. Je n'ai pas oublié avec quel plaisir mon pauvre cher Barnabé apprenait toujours quelque chose de neuf. Il répétera tout ce que je lui ai dit. Cela, j'en réponds.